recherches secrets en matière de guerre bactériologique et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
On le représente généralement coiffé d'un haut de forme, l'œil cerclé d'un monocle, un gardénia à la boutonnière. Les titres des livres qui ont raconté ses prouesses suffiraient à piquer la curiosité. C'est l'aiguille creuse, le bouchon de cristal ou l'île aux 30 cercueils. Il est une figure typiquement française du roman policier.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Bonjour. Arsène Lupin court toujours. Eh oui, après plus d'un siècle, il court toujours. Et pourquoi pas au Salon du Livre d'où je vous parle en direct. Je suis tenté de l'imaginer vibrillonnant alentour, déguisé de diverses façons et jouant à se livrer de stand en stand à de multiples larcins pour le seul plaisir de tromper son monde. Mais comme je tiens à conserver la considération des organisateurs de cette belle manifestation, je me hâte de le rechercher dans des situations mieux adaptées à sa géniale kleptomanie. Je me hâte de le renvoyer au moins pour un temps vers cette belle époque où il trouva la pleine éclosion de ses prodigieux talents. Cette belle époque que mon invité Dominique Khalifa, professeur à la Sorbonne, connaît si bien pour l'avoir décrite dans plusieurs ouvrages précieux. Il va nous aider à en restituer la saveur autour d'un personnage qui s'imposait dans cette émission parce qu'il est tout à la fois très daté et indémodable. Maurice Leblanc, en faisant surgir Arsène Lupin au début du siècle dernier, en créant une figure qui toucha d'emblée un vaste public, n'a peut-être pas soupçonné lui-même que les traits de ce gentleman cambrioleur rencontreraient assez de rêves collectifs de sensibilité nationale dans la ligne des bandits d'honneur d'autrefois pour qu'il survécût si longtemps. Il perdure en effet, selon tous les supports de la communication, dans le prolongement qu'offrent les écrits en forme de pastiche, la radio, le cinéma, la télévision et jusqu'au manga japonais, figurez-vous. Alors que tant d'auteurs des années 1900 et suivantes se sont recroquevillés dans les pages de Manuel Jauny, le héros de Maurice Leblanc est toujours présent, il est toujours vivant. Voilà bien qui appelle des explications que je me réjouis de tâcher de fournir ce matin. Tout en n'ignorant pas qu'Arsène Lupin va peut-être nous échapper au moment même où nous croirons le saisir comme il savait si bien le faire. C'est un risque à courir, eh bien nous allons l'assumer.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de vos valeurs sans vous menacer d'une âme. Quand il détrousse une femme, il lui fait porter des fleurs. Gentleman cambrioleur est un grand seigneur. Il vient chez vous la nuit sans déranger votre sommeil. Il décroche sans bruit le tableau acheté la veille. Puis avant de partir, après ses coupables travaux, il laisse un mot sur le piano. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Et à son heure. Rêve de voir son visage, de la crise à la danse. À l'épouse la meilleure, gentleman cambrioleur, a gagné le cœur. C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman. Il s'empare de gentleman cambrioleur est un vrai seigneur.
Dominique Khalifa, bonjour.
Bonjour.
Je ne doute pas que vous ayez reconnu la chanson célébrissime de Jacques Dutronc, Gentleman cambrioleur, qui constituait le générique de la série télévisée qui s'appelait Arsène Lupin, une série de Jacques Naoum qui avait été diffusée sur la deuxième chaîne de l'ORTF de mars 71 à février 74. Je ne dirais pas que vous l'avez entendu ou regardé dans votre berceau, mais c'était la fameuse série.
Je l'ai suivi avec assiduité.
Hein. Ah, déjà, ah, déjà.
Oui, bien sûr.
Avec Georges Descrières dans le rôle d'Arsène Lupin. Il me semble qu'on trouve là déjà toute la panoplie, toute la mythologie et la légende de notre personnage.
C'est un très beau texte. Et puis, ce qui est sensible quand on écoute Dutronc et qu'on entend la musique de cette chanson, c'est qu'on voit déjà la temporalité du personnage. C'est bien sûr très 70, mais il y a des sonorités années folles, et une espèce de jazz là qui vient. On voit déjà effectivement combien les temps sont en train de s'entremêler derrière une figure qui nous paraît très très contemporaine et en même temps qui s'inscrit dans un passé qu'il est difficile de dater très précisément, en tout cas à l'écoute de la chanson.
Je ne vous cacherai pas que ces rebonds, ces reflets, ouais, conviennent assez bien à cette émission et à son principe. Et c'est pourquoi Leblanc et Lupin sont ici ce matin au Salon du Livre.
Absolument. Mais oui, il est de la belle époque comme des années 20, des années 70 comme d'aujourd'hui. Il y a cette vraie, effectivement, interaction des temps qui fait que... Moi, j'ai commencé à lire Lupin, je crois, vers 13 ans, pour vous dire... Et je crois que je ne me suis pas arrêté depuis, ou presque pas.
Jusqu'au dernier week-end, si
ouais,
je comprends
absolument.
Bien.
Pas.
Il a dit quelque part, enfin, Leblanc lui fait dire, quand on ne peut pas être un grand artiste ou un grand guerrier, il n'y a plus qu'à être un grand voleur. Il y a une ambivalence par rapport aux valeurs, que, comme le dit la chanson, de cette société, la fascination pour celui qui détrousse, qui bouscule, oui, les règles de cette belle époque.
Hein, c'est vrai qu'une part du charme du personnage de Arsène Lupin, de Maurice Leblanc, ça vient effectivement de ce goût de la transgression qui est très très caractéristique de la France des années 1900, qui est une transgression, on va dire, qui est quand même assez gentille, quoi, qui n'a pas la brutalité de certains, de Fantômas ou de certains autres voleurs ou du voleur de Darien que Louis Malle d'ailleurs, sur lequel Louis Malle fait un très beau film à la même période à peu près, hein. Là on est Lupin, la transgression est douce et amusante et finalement très très bon enfant.
Il y a parfois des transgressions qui sont en fait des contreforts à une société telle qu'elle est. Ce n'est pas du tout un anarchiste, Lupin.
Non, non, non. Alors il y a une légende, donc, je crois, à laquelle on est nombreux à avoir voulu tordre le cou, qui voudrait effectivement que Maurice Leblanc ait pris la figure de Lupin chez cet très célèbre voleur anarchiste Alexandre Marius Jacob qui en 1905, mais non, il y a rien de révolutionnaire, il y a rien d'anarchiste, si ce n'est peut-être cette mode des années 1900 d'un espèce d'anarchisme mondain salonard qui était partagé par beaucoup, mais il y a absolument rien chez on en reparlera sans doute dans toutes les valeurs défendues par Arsène Lupin et donc par Maurice Leblanc, sont des valeurs bourgeoise, revancharde, patriotique, un brin xénophobe, un brin antisémite, enfin rien à voir avec la charge extrêmement violente contre la société de son temps qu'un Marius Jacob pouvait avoir, lui qui était un vrai militant révolutionnaire.
Nous allons le retrouver, notre Jacob, mais auparavant, puisque vous évoquez le blanc, puisque vous évoquez le dialogue entre l'auteur et son héros, je voudrais que vous nous aidiez à le camper un peu, ce Leblanc chez lui. Il y a un mélange de vrai talent et au fond de frustration.
Alors, il y a un style quand même qui fait effectivement qu'on goûte la langue de Maurice Leblanc. Il est assez classique d'une certaine manière et une frustration dans la mesure où il n'est pas parvenu à faire la littérature qu'il souhaitait. Leblanc est un Rouennais, un vrai Normand qui a passé sa jeunesse et même toute sa vie dans la fascination des grands ancêtres. Flaubert, évidemment, et puis derrière Flaubert, Maupassant et beaucoup d'autres, il voulait être un auteur. Il voulait effectivement s'inscrire dans les pas de ces grands romanciers qu'il adulait.
Il a même été symboliquement jusqu'à imaginer que le père de Flaubert avait accouché sa mère.
Ah oui, tout ça, la filière. Et il raconte, alors ça, je ne sais pas si c'est vrai, il raconte qu'à un moment, à Rouen, il y avait eu une célébration de Flaubert et que était venu un Carteron et non des moindres qui était composé de Zola, Goncourt, Mirbeau et Maupassant, et que par le plus grand des hasards, mais là, faut peut-être un peu suspecter la mythologie du personnage, il s'était retrouvé dans le train pour Paris avec eux, et qu'il était là, jeune auteur, donc il allait pouvoir enfin parler à Maupassant, Zola, etc. Sauf que Goncourt était crevé, donc il dit, moi je tire les volets, puis je fais une sieste, et tout le monde s'est endormi dans le compartiment. Vrai, pas vrai, en tout cas, ça montre bien effectivement les ambitions qui étaient celles de Maurice Leblanc. On est quand, là, vers 1890 à peu près, au moment où il va, un peu avant, 1975, il va quitter Rouen pour venir s'installer à Paris.
Milieu bourgeois,
un père négociant.
Pas intellectuel du tout.
Non, mais des gens qui lisaient. Et il va arriver à Paris pour faire, comme tous les jeunes auteurs provinciaux, monter à la capitale, écrire des contes qu'il envoie aux journaux mondains de l'époque, le Gil Blas, etc.
Il aurait pu dire « je serai Maupassant ou rien », comme Victor Hugo avait dit Chateaubriand ou rien.
Ou Paul Bourget, qui était la grande... c'est ça qui l'intéresse, le roman psychologique, le roman de mœurs mondain qui triomphe dans ces années 1890, et il écrit des contes qui marchent, pas terrible, il écrit quelques petits textes qu'il envoie aux auteurs, à Bourget, à Maurice Donnet, à toutes les signatures qu'on a beaucoup perdu de vue aujourd'hui. C'était les académiciens de l'époque. Et puis ça marche pas.
Il va jusqu'à écrire une pièce de théâtre, La Pitié, qui est un four.
Ouais, ça marche pas tellement. Il écrit bien, mais c'est facile d'écrire bien. C'est facile. Ça ne suffit pas, on va dire. Et puis, la chose à ce moment-là qu'il découvre avec beaucoup d'autres, c'est le grand rêve, la grande utopie des années 1900, c'est la bicyclette. Et il écrit là, on doit être vers 97-98, il écrit un roman qui va avoir un petit succès, qui est Leblanc aime le vélo comme tous les bourgeois et comme tous les Français de la belle époque. Ils font des kilomètres et des kilomètres en vélo, la petite reine. Et il écrit un roman qui s'appelle Voici des ailes, publié chez Hollendorf, je crois que c'est en 97-98, qui n'a pas beaucoup plus de succès, c'est un roman très à la mode, mais qui va lui attirer l'attention de quelqu'un d'autre, de très important à cette époque, qui était un passionné et un fanatique de sport, et encore plus de vélo, qui est l'éditeur Pierre Lafitte, qui va se voici des ailes, le vélo, le sport, la modernité sportive, corporelle, hygiéniste et finalement très mondaine de ces années-là. Lafitte va beaucoup aimer ce roman.
Pierre Lafitte, en effet, personnage considérable, entrepreneur de la presse du moment. Il a une revue qui a beaucoup de succès, Je sais tout. Et ensuite, il est le premier à créer un quotidien dont la première page est entièrement couverte de photographies qui s'appelle Excelsior. Pierre Lafitte, en fait, est l'homme du tournant de Leblanc au moment où Leblanc renonce à être Maupassant.
Voilà.
Et est conduit à devenir l'auteur d'Arsène Lupin.
Il y a pas mal de similarités entre Lafitte et Leblanc. Lafitte est un Bordelais, passionné de sport, monté à Paris aussi pour réussir dans les milieux littéraires et éditoriaux, et passionné lui aussi de vélo, et qui a un sens de la modernité, qu'on va bien sûr retrouver dans ses publications, et qui colle assez bien avec une certaine façon d'écrire. À la, d'une modernité belle époque, le progrès, la technologie, la bicyclette.
Et l'automobile.
L'automobile, bien sûr. Et donc, effectivement, vous avez raison, les magazines que Pierre Lafitte va créer à partir de 1901, 2, 3, et dont certains sont très célèbres, Fémina, La vie au grand air, Ferme et Château, et puis surtout Je sais tout, qui est le grand mensuel encyclopédique de la bourgeoisie belle époque, ça correspond assez bien à l'imaginaire, à cette modernité à la fois mondaine, un peu encyclopédique, un peu éducative qu'il y a à cette époque, et dans laquelle Leblanc, Lupin, va parfaitement s'inscrire, et effectivement, Et puis le fil anglophone, parce qu'en fait, quand Pierre Lafitte va demander à Maurice Leblanc de lui faire une nouvelle policière, il a évidemment Sherlock Holmes en tête, l'immense succès de Sherlock Holmes en Grande-Bretagne, qui avait été publié dans cette très célèbre revue qui s'appelle le Strand Magazine, et Lafitte a très envie, avec Je sais tout, de faire un peu comme le Strand Magazine, et il lui faut son Conan Doyle.
D'ailleurs, une des premières réussites de notre Maurice Leblanc, c'est le livre qui s'appelle Herlock Sholmès contre Arsène Lupin. Il n'avait pas le droit de dire, évidemment, Sherlock Holmes pour des raisons.
Ouais. Il a tenté au début, mais il a dû corriger. Ouais,
On peut d'ailleurs faire le parallèle un moment, car c'est intéressant. Tous les deux, au fond, ont été un peu dépassés par leur personnage. Ouais. Tous les deux ont essayé de le tuer et ont été obligés, sous la pression frénétique de leur lecteur, de le ressusciter. Encore que les deux personnages sont très différents. Au fond, Sherlock Holmes, c'est un arrogant, c'est un dépressif, c'est un misanthrope, c'est un misogyne. Et je retrouve une comparaison intéressante qu'avait fait le journaliste Alexis Libart. Alors que, il aime les substances illicites, chose absolument peu, absolument étrangère. Arsène Lupin, qui lui est beaucoup plus solaire, hein, qui est gouailleur, qui est amoureux, qui est chevaleresque, parfois provocant, mais qui toujours avec une élégance, une désinvolture. L'un est sombre, l'autre est lumineux.
Ouais. Sherlock Holmes, c'est un Britannique pur jus, flegmatique, pessimiste, sombre parfois, et Lupin, c'est la francité incarnée, hein, c'est l'incarnation du panache à la française.
Voilà des stéréotypes, non, Dominique Califat?
Oui, bien sûr, mais Leblanc joue avec ces stéréotypes, et Doyle d'une certaine manière également, bien sûr. Alors, le paradoxe, c'est qu'effectivement, Leblanc, qui voulait être le nouveau Maupassant, le nouveau Flaubert, il n'a aucun succès avec ses romans précédents. Et puis en revanche, 1905, la première nouvelle de Arsène Lupin dans le Je sais tout de Lafitte, ça marche incroyablement bien, et ça lui ouvre une seconde carrière qu'il n'apprécie pas. Il trouvera toujours que c'est pas sérieux, que c'est pas très intéressant, que c'est pas très bon, mais qui lui ouvre effectivement un incroyable succès public.
Il est presque chagrin de ce succès. Il y a une lettre de lui de 18 où il dit qu'il n'a jamais été vraiment salué par aucun critique, qu'il a été dépassé par son personnage. Il y a une mélancolie chez cet auteur d'un personnage si coruscant.
Il dit c'est mon poignard d'Ingres. Hein, et effectivement,
pourquoi d'Ingres? Le peintre Ingres.
Oui.
Pourquoi il y a un poignard chez Ingres?
C'est le sentiment effectivement de Leblanc d'être dans l'attente d'un coup qui dont on ne sait d'où il va venir. Il a toujours eu cette frustration et jusqu'au bout. D'ailleurs, plus tard, dans les années 20 et 30, alors que Lupin est devenu un monstre éditorial, qui vend, il continuera à publier parallèlement des romans qui continueront à n'avoir aucun succès.
C'est une vraie douleur permanente.
Absolument. D'ailleurs, le parallèle avec Doyle est réel. Hein. Il vit ça, effectivement, d'une certaine manière, comme une immense, un échec personnel et un échec littéraire. Alors, il est célébré, il va avoir des positions extrêmement importantes à la Société des gens de lettres, etc., etc. Mais si vous voulez, il n'aura jamais écrit cette éducation sentimentale ou cette une vie à laquelle il aspirait quand il était un jeune auteur.
Hein. Il n'est jamais tout à fait consolé de son succès. Alors, au point où nous en sommes de notre conversation consacrée à Arsène Lupin, il faut que nous le voyons apparaître.
Et absolument.
Donc, on aurait pu choisir bien des extraits. Celui-ci est tiré du roman La Perle Noire, qui est un roman de 1907, un extrait lu par Michael Lonsdale dans une émission qui était consacrée à Lupin, héros du roman noir français, qui avait été produite par Noël Simselot et diffusée sur France Culture le 2 août 1991. Écoutons, ou plutôt rencontrons Arsène Lupin.
Il entra donc sans bruit à l'insu de la concierge. Il remonta les 5 étages. Dans l'antichambre, à la lueur d'une lanterne électrique, il déposa son pardessus et son chapeau sur une des chaises, s'assit sur une autre et enveloppa ses bottines d'épais chaussons de feutre. Ouf, ça y est. Et combien facilement. Je me demande un peu pourquoi tout le monde ne choisit pas le confortable métier de cambrioleur. Avec un peu d'adresse et de réflexion, il n'en est pas de plus charmant. Un métier de tout repos, un métier de père de famille. Trop commode même, cela devient fastidieux. Il déplia un plan détaillé de l'appartement. Ah, voici le tracé d'un couloir, du couloir qui mène aux chambres. À 3 mètres, je dois rencontrer la porte du placard aux robes qui communique avec la chambre de la comtesse. Il replia son plan, éteignit sa lanterne et s'engagea dans le couloir en comptant. 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Voici la porte. Comme tout s'arrange, mon Dieu. Un simple verrou, un petit verrou me sépare de la chambre et qui plus est, je sais que ce verrou se trouve à 1,43 m du plancher. De sorte que grâce à une légère incision que je vais pratiquer autour, nous en serons débarrassés. Il sortit de sa poche les instruments nécessaires, mais une idée l'arrêta. Et si ce verrou n'était pas poussé? Essayons toujours, pour ce qu'il en coûte. Il tourna le bouton de la serrure, la porte s'ouvrit. Bon, brave Lupin, décidément, la chance te favorise. Tu connais la topographie des lieux où tu vas opérer. Tu connais l'endroit où la comtesse cache la perle noire. Par conséquent, pour que la perle noire t'appartienne, il s'agit tout bêtement d'être plus silencieux que le silence, plus invisible que la nuit. Sur la table, il y avait une boîte de papier à lettres et enfermé tout simplement dans cette boîte la perle noire.
Je laisse Dominique Khalifa le suspense, c'est le fait même des romans feuilletons.
Alors ça, c'est le Lupin première manière, c'est le Lupin tel qu'il apparaît, c'est une nouvelle de 1907, c'est-à-dire on est avec le cambrioleur, celui qui va commencer sa carrière effectivement en multipliant avec beaucoup d'ingéniosité, avec beaucoup d'inventivité, des stratagèmes extrêmement rodé, ça, la transgression du voleur, l'aventurier, l'aventurier de haut vol, hein, qui effectivement va s'introduire dans les milieux mondains, dans les milieux aristocratiques pour pratiquer une sorte de reprise un peu de justice un peu immanente. On verra tout à l'heure que dans la jeunesse de Lupin, il y a un besoin à un moment. En fait, on peut le dire tout de suite d'ailleurs.
C'est plus sûr. C'est plus sûr. Vous savez, les émissions courent très vite.
Sa mère était une aristocrate, Henriette d'Andrézy, qui avait été maltraitée à la suite de son mariage avec un roturier, Théophraste Lupin, le père de Lupin.
On parle de Lupin, pas de Leblanc, là.
De Lupin, bien sûr, de Lupin. Et donc, à 6 ans, d'après Leblanc, Lupin aurait volé un collier fantastique, le collier des Dreux Soubise.
Vocation précoce.
Pour justement effacer l'humiliation de sa mère qui n'était pas suffisamment bien traitée dans sa famille après ça. Donc, ça, c'est la première vocation d'Arsène Lupin, il la gardera toujours, mais plus on va avancer, plus il va effectivement se doubler d'autres visages, le justicier, le redresseur de tort, le patriote, etc. Il gardera toujours cette dimension de voleur mondain, mais en la compliquant effectivement pour créer un personnage au bout du compte extrêmement héroïque, mais beaucoup plus complexe que le seul gentleman cambrioleur qu'il est dans les premières nouvelles, dans les premiers romans, dans les 4-5 premières années.
Il devient un peu un Robin des Bois de la Normandie.
Il devient un Robin des Bois de la France entière, hein, Normandie bien sûr,
mais
de la France entière.
Je ne veux pas réduire votre héros.
Il devient un justicier, il devient un grand acteur du roman national. N'oublions pas que si tout le Sahara est devenu français, c'est grâce effectivement à Arsène Lupin qui en a fait don à la République quelques années avant la Grande Guerre.
D'où vient ce nom d'Arsène Lupin? Il y a une plante qui s'appelle
le lupin, bien
lupin,
sûr. Il y a une vieille. Alors où à la fin, il dit à un moment, je m'en vais cultiver mon jardin. À la fin de sa carrière,
le lupin, c'est une plante de la famille. Je me suis renseigné des légumineuses, qui comprend de nombreuses espèces déjà.
Il y a une autre indice. Il y aurait eu un conseiller municipal parisien qui se serait appelé Arsène Lopin. Bon. Ça, c'est...
Et ce serait plein, et Leblanc lui aurait dit, non, écoute, vous n'avez qu'à changer de nom.
On n'a pas cette donnée-là. Non, oui, effectivement, c'est un beau nom bien français. Le père, écoutez, c'est pas mal, quoi. Un père, Théophraste Lupin, professeur de savate, de boxe française, de gymnastique et de boxe française, c'est pas mal, hein, quoi. Et puis de l'autre côté, Henriette d'Andrézy. La noblesse bretonne, le côté vieille France, qu'on retrouvera dans tous les pseudonymes d'Arsène Lupin, qui en fut un très très grand consommateur. Raoul d'Andrézy, Raoul de Limousy, enfin il y en a des dizaines et des dizaines.
Jim Barnett.
Il faut
un peu d'anglomanie.
Le côté, oui, parce que ça c'est quand il est détective privé. À un moment, il se transforme en Victor de la Brigade Mondaine, et puis détective privé, c'est le nom de Jim Barnett. Et quand on est détective privé, effectivement, il faut américaniser, angliciser, ou surtout américaniser un petit peu l'identité.
Vous évoquez, Dominique Khalifa, l'évolution de l'image du personnage qui a varié beaucoup. Oui. Écoutez la manière dont l'auteur, Maurice Leblanc, le définit. C'est un extrait d'un article du journal, Le Journal, du 30 août 1920.
Il vit toujours en marge de la société et en opposition avec les lois. Mais ces lois, il ne les transgresse que pour servir la société. C'est aussi un patriote. Il sert son pays à sa manière, et avec tant de magnificence que son pays, qui devrait le coffrer, est contraint de le remercier. Au fond, il est chauvin, cocardier, épris de gloire et de panache, réactionnaire en diable, bref, un bourgeois, capitaliste et bien pensant. Jusqu'en amour, il professe les sentiments les plus retardataires. Toujours amoureux, il l'est toujours pour le bon motif. Chaque fois, il lui faut l'assistance de monsieur le maire et de monsieur le curé. Autant que je sache, il est bigame, sinon trigame, ce qui est un hommage à la sainte institution du mariage.
Ce texte est lu par Anne Christ dans l'émission Lieu de mémoire de Jean-Marc Fonbonne, qui était consacré à Arsène Lupin et qui a été diffusé le 29 juillet 1999 sur France Culture. Dominique Khalifa, vous le retrouvez, votre très cher Arsène Lupin?
Oui, avec toute une série de caractères qui sont très, très, très récurrents dans sa ville. L'amour et le rapport aux femmes est central. Les aventures d'Arsène Lupin, comme d'ailleurs les autres romans de sans succès qu'on évoquait tout à l'heure de Maurice Leblanc, sont des romans d'amour. Hein. On ne comprendrait rien à Lupin s'il n'était pas effectivement, comme le chantait Jacques Dutronc, le tombeur de ces dames. Il se marie, mais il est, c'est pas un Don Juan du tout. Il est toujours très sincèrement amoureux.
Il se marie chaque fois. Il s'est marié quatre ou cinq fois.
Il s'est marié quatre fois, je crois. Il s'engage effectivement dans des quêtes. Il y a de la chevalerie là-dedans, dans des quêtes amoureuses. La plupart du temps, c'est pour sauver ou pour venir en aide à des jeunes femmes qui sont toujours poursuivies par d'affreux suborneurs ou d'affreux manipulateurs. Il y a cette dimension effectivement. Qui est extrêmement caractéristique d'une certaine conception du roman et du héros à la française, et c'est pour ça qu'il fonctionne toujours bien Lupin aujourd'hui, enfin qu'il a pu fonctionner dans les années 20, dans les années 50 et aujourd'hui. Il a absolument toutes les caractéristiques, il exprime et incarne tous les caractères de ce que doit être le héros à la française, chevaleresque, galant, amoureux, aventurier, sportif, et surtout, il fait tout ça, et la chanson de Dutronc le montre aussi très bien, et Descrières l'incarnait assez bien. Il fait tout ça avec du panache, bien sûr, mais aussi une forme de distance et d'ironie qui fait que c'est jamais... Il y a dans les textes, il y a une formule qui revient très très souvent dans les textes de Maurice Leblanc et dans les romans de Lupin, c'est « Lupin fait rire la galerie ». En se moquant de la police, gentiment, en se moquant des institutions, gentiment, sans jamais les mettre en péril, hein, car il est patriote, il est républicain, comme Maurice Leblanc d'ailleurs, sans jamais. Et puis le jour où la patrie est en danger, il répond présent. Hein, enfin, les romans de la guerre sont extraordinairement patriotes, travaillant effectivement dans le nationalisme quasi outrancier qui était celui des contemporains en 14-18. Donc, il met jamais en danger les valeurs de la République de la France, mais il le fait toujours avec cette distance ironique qui fait qu'on s'amuse aussi beaucoup avec ces textes-là, et qu'il fait, comme le répète à longueur de nouvelles Leblanc, il fait rire les galeries, il amuse les Français. Quand on ouvre le journal où il y a les aventures d'Arsène Lupin, il y a, et ça va durer, il y a du frisson, il y a de l'amour, il y a du suspense, et il y a un grand éclat de rire aussi.
On a le sentiment que cet éclat de rire se retrouve d'ailleurs du côté des études lupiniennes, car ce personnage a fait surgir un très grand nombre de commentateurs, souvent avec l'appui d'une sorte de canular. On parle très sérieusement de choses qui peut-être exigent une distance. Le maître de ça a été François Georges, qui a été longtemps un des animateurs avec Comte Sponville avant qu'il se brouillasse, qui a été l'animateur d'une association des amis d'Arsène Lupin. Et écoutez cette autre conversation, cette autre intervention de spécialiste des études lupiniennes. Ça remonte à 1970. C'est un des animateurs de cette veine de commentaires, de glose autour de Lupin, Jean-Claude Dinguirard, qui s'exprime dans l'émission Arcane 70 de Roger Pilaudin, qui fut une grande figure de France Culture, une émission diffusée le 2 avril 1970.
Notre mission, à nous, Société des études lupiniennes, est dans la connaissance scientifique d'Arsène Lupin.
Est-ce que, dans les études lupiniennes, vous avez essayé de dresser un tableau de la situation de Lupin, justement par rapport à la société dans laquelle il vit ?
Lorsque vous parlez société, vous entendez finance. Nous avons essayé d'évaluer les profits d'Arsène Lupin. Eh bien, dans les 20 volumes qui nous sont présentés, il est à peu près certain que Lupin ne réalise jamais aucun bénéfice. La plupart de ses aventures se soldent par un déficit pour lui. Il est vrai que nous ne connaissons qu'une part infime de ses aventures. Mais voyez la générosité d'Arsène Lupin, pas seulement sa philanthropie, les multiples dons qu'il fait à des personnes, à des individus. Voyez sa générosité patriotique, par exemple. N'oubliez pas que c'est Arsène Lupin qui a offert à la France l'Empire de Mauritanie, qu'il avait conquis par ses seules forces. C'est Arsène Lupin qui a négocié l'entrée en guerre décisive d'un allié en 1917, un allié que je ne nommerai pas, puisqu'il a fallu acheter par 300 millions en or versé par Arsène Lupin son entrée en guerre.
Et c'est lui qui a même failli rattacher l'Alsace et la Lorraine à la France. Je crois que c'est dans 813.
C'est dans 813.
Échec, enfin, malheureux.
Par quelle méthode ?
Chantage. Chantage exercé contre l'empereur d'Allemagne. Ou bien il divulguait certaines choses très compromettantes pour la famille de l'empereur d'Allemagne, ou bien l'empereur d'Allemagne lui rendait l'Alsace et la Lorraine. Malheureusement, pressé par le temps, Arsène Lupin, à l'époque, a dû se contenter de négocier l'abandon du Maroc par l'Allemagne. Vous savez ce qu'il en est devenu.
Voilà l'idée de cet entre-là du sérieux et de la plaisanterie dissimulée du canular.
Oui, il y a une pataphysique d'Arsène Lupin qui a émergé dans les années 60 et qui se poursuit encore aujourd'hui. Hein.
Et qui nourrit sa notoriété et son succès d'aujourd'hui. Quelle est la sociologie du public ? Est-ce qu'on peut l'apercevoir ? Quand on réfléchit au succès d'un auteur, ouais, qui est allé jusqu'à surprendre cet auteur lui-même.
Je pense que c'est différent selon les périodes. Au moment où Leblanc écrit, à la Belle Époque ou dans les années 20, c'est vraiment, on a souvent dit littérature populaire, c'est pas vraiment du roman populaire, Arsène Lupin. On est face à des nouvelles ou à des romans publiés dans des revues bourgeoises, je sais tout, dans des collections relativement chères. Hein, c'est pas du roman à 4 sous, c'est 3 francs, 3 francs 50. Les volumes Pierre Lafitte, c'est plutôt des romans destinés aux classes moyennes et à la petite et moyenne bourgeoisie. et qui, mais avec une extension par la suite essentiellement vers la jeunesse. Ça devient aussi du roman de la jeunesse. Par-delà la Seconde Guerre mondiale, je pense que lorsque le livre de poche, par exemple, reprend, le livre de poche a joué beaucoup pour dans les années 50, 60 et au-delà.
Comme pour Gaston Leroux, Rouletabille.
Absolument, tous ces textes ont été repris. Ça a permis effectivement d'ouvrir vers un public beaucoup plus large et notamment vers les ados. Il y a un vrai public adolescent dans la seconde moitié du XXe siècle et qui perdure aujourd'hui, qui fait qu'on lit encore les aventures d'Arsène Lupin quand on a 14 ou 15 ans aujourd'hui.
Donc il y a ceux qui prennent leur distance par rapport à la mythologie du personnage du voleur, et puis ceux qui prennent ça au sérieux, qui s'en indignent du côté du sérieux des socialistes. On voit par exemple un personnage aussi éminent que Marcel Samba, qui est vous connaissez bien, qui est un des leaders très cultivés du socialisme, mais qui en même temps par moments emprunt de quelque sérieux, et qui dit à la Chambre des députés en 1908 à l'heure actuelle, ce qui résulte de la lecture des feuilletons, et notamment ceux de Maurice Leblanc avec Arsène Lupin, c'est que le beau rôle à prendre, c'est celui du cambrioleur. Naturellement, il s'en indigne. Le rôle de l'apache, mot d'époque. Le rôle de l'homme qui n'a pas peur, qui échappe à la police. Le rôle de l'outlaw, qui est en guerre avec la société.
Ça, c'est le grand débat des années 1905-1914, à un moment où la France se croit assaillie par une vague de délinquance, d'insécurité, et qui fait effectivement qu'on va porter la responsabilité en premier lieu sur tous ces textes dont on dit qu'ils sont en train de démoraliser le public, de démoraliser, au sens propre du terme, ôter la morale, ça va vous démoraliser. Donc c'est assez étonnant, parce que c'est quelque chose qu'on dit à droite, à l'extrême droite, chez les censeurs catholiques, bien qu'on disait tout à l'heure que l'abbé Bethléem n'a pas condamné Arsène Lupin.
On le disait avant, hors micro, il ne faut jamais faire allusion à ce qu'on dit hors micro, Dominique Khalifa. L'abbé Bethléem, rappelez-nous qui était l'abbé Bethléem.
C'était la bonne presse, c'est-à-dire les assomptionnistes qui publiaient chaque mois des guides de bonne lecture, ce que les bons catholiques pouvaient lire et ce qu'ils ne pouvaient pas lire, c'est-à-dire les textes qui étaient dangereux à ne pas mettre entre toutes les mains.
Jean-Yves Mollier a consacré un très beau livre à l'abbé Bethléem.
Mais aussi à gauche, aussi à l'extrême gauche, effectivement. Donc cette idée d'une littérature criminogène, d'une littérature qui allait inviter les jeunes à devenir des cambrioleurs, c'est un grand. D'ailleurs, on l'a retrouvé après avec le cinéma, avec des tas d'autres données. En réalité, on sait bien combien les textes de Maurice Leblanc sont inoffensifs sur le plan idéologique. On l'évoquait tout à l'heure, et sur le plan, c'est vraiment pas de la littérature qui pousse au crime.
On imagine guère un voleur potentiel aller chercher les règles d'un savoir-faire et d'une habileté de détrousseur, de vide-gousset dans l'œuvre de Maurice Leblanc. C'est ça que vous nous dites. Je vous rejoins sur ce point.
Au contraire, toutes les valses. On évoquait le Jean-Claude Daguerre qu'on écoutait tout à l'heure, parlait du caractère très, très contextualisé des aventures de Lupin. C'est la belle époque. L'Alsace-Lorraine, l'Empire colonial ou la guerre. Bien sûr, et ça c'est important, mais je crois qu'il y a quelque chose aussi, et c'est pour ça que ça continue de marcher aujourd'hui, c'est pour ça que ça continue effectivement de parler aux lecteurs contemporains et que le personnage est toujours une figure contemporaine. Il y a quelque chose d'aussi très intemporel. On dit Lupin, c'est la belle époque. C'est vrai pour les années folles. D'ailleurs, il y a une confusion chez les gens. C'est aussi parce que Leblanc a continué à écrire des romans après la guerre. Et les feuilletons avec des crières qu'on évoquait, ils se passent dans les années folles, ils se passent dans les années 20. Peu importe. Il y a le côté ancien. Mais en même temps, quand on lit bien les textes, le fonctionnement du texte, lui, il est presque intemporel. Qu'est-ce qu'il y a chez Lupin ? Il y a la tradition de l'épopée, il y a une dimension épique évidente, c'est un héros avec un grand H, il y a une dimension chevaleresque qui est évidente et qui nous renvoie à tous les romans de chevalerie, à tous ces héros, à ces défenseurs de la veuve et de l'orphelin qu'il est. Sans compter la dimension de courtoise de la quête amoureuse,
avec tous les gestes symboliques quand il vole des dames, des diamants, soit qu'il les rende, soit qu'il les laisse, envoie des fleurs.
Et puis il y a la dimension aussi bandit d'honneur. Les grands redresseurs de tort, Robin des Bois,
Toutes ces strates s'entremêlent dans le texte, dans les textes de Leblanc, qui était à cet égard un homme de lettres, hein, au sens propre du terme. Il connaissait l'épopée, le roman courtois, et puis ça vient se conjuguer avec la modernité, l'automobile, tous les artefacts technologiques de la Belle Époque. Lupin utilise le téléphone, le télégraphe, le sous-marin. Et c'est cette espèce d'enchevêtrement du très moderne et du traditionnel, du roman archaïque, qui fait qu'on le lit toujours. Il n'y a pas que le côté héros bien français avec le panache, il y a aussi cette dimension-là qui fait que ce texte continue à parler comme d'autres textes et comme d'autres épopées peuvent continuer à parler aux jeunes lecteurs d'aujourd'hui.
Ce qui est peut-être plus daté, c'est un certain type de nationalisme. Il a été, parmi ses confrères, évidemment, un des chantres, on ne peut pas rétrospectivement lui en faire gris, il avait des chantres du patriotisme pendant la Grande Guerre. Et il a, d'où l'idée qu'il va finir par jouer un rôle important de la diplomatie. Je vous ai choisi un extrait d'un des meilleurs films sur Lupin. Il y en a foison, nous en dirons un mot tout à l'heure. Le film de Jacques Becker, Les Aventures d'Arsène Lupin, qui est sorti en 1957 avec Robert Lamoureux dans le rôle d'Arsène Lupin et Otto Hasse dans le rôle du Kaiser Guillaume II. Lupin est allé en Allemagne. Absolument. Il est secrètement dans le cabinet de l'empereur et voilà ce qui se passe. Vous allez reconnaître tout de suite l'empereur à son accent.
J'en viens justement au motif de votre présence ici. J'ai besoin d'être certain de la valeur d'une cachette que j'ai fait faire et où je veux disposer en toute tranquillité mes documents personnels et des choses précieuses. Si Arsène Lupin ne réussit pas à découvrir cette cachette au bout de, mettons, deux jours entiers, quelles seraient les chances d'un espion qui, lui, serait obligé de se cacher?
Aucune, sire. Et dans ce cas, votre cachette serait bonne.
Ah! Voulez-vous pendant que rendu de rechercher cet endroit secret? Et si vous le découvrez, voulez-vous essayer d'ouvrir la cachette?
Je n'aurai pas besoin de 48 heures, demain je serai parti.
Déjà?
Mais il le faut, sire. D'ailleurs, mes affaires m'appellent à Paris. Je suis un homme très occupé, vous savez.
D'autre part, j'ai prévu pour vous une indemnité. Que diriez-vous d'une somme correspondant au revenu mensuel de vos activités parisiennes? Mettons 100 000 marques.
Je serais bien curieux de savoir comment Votre Majesté est arrivée à ce chiffre.
Mes services ont dressé une statistique qui vous concerne. Êtes-vous d'accord avec leur calcul?
Ils ont peut-être raison. Moi, je ne calcule pas.
J'ajoute que si vous réussissez à ouvrir la cachette, vous y trouverez une assez belle bague que vous pourrez conserver en souvenir de moi.
J'accepte, sire. J'adore les souvenirs.
Vous ne l'avez pas encore?
Non, sire, mais je l'aurai bientôt.
Vraiment, mon cher, vous me plaisez énormément. Dommage que vous ne soyez pas allemand, monsieur. De vous, j'aurais fait quelque chose.
Sire, je suis ravi d'être français.
Alors, Dominique Khalifa.
On parlait tout à l'heure de stéréotypes français et anglais avec Lupin et Holmes. Alors là, on a l'allemand maintenant, hein, le Kaiser qui. Les voix sont intéressantes. Robert Lamoureux a été une grande star nationale, pas tellement internationale, mais dans sa voix. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, c'est-à-dire la gouaille, le côté cabotin, une certaine autre façon de tenir tabac. On imagine la scène, Arsène Lupin, un gentleman cambrioleur, face au Kaiser, l'empereur d'Allemagne, et il lui parle d'égal à égal, avec ce côté gouailleur, cabotin.
C'est le Kaiser qui l'a fait venir, il faut dire.
Oui, bien sûr, parce qu'il était... qui lui, ça, c'est le côté Théophras, c'est le côté Père Lupin, le prof de savate hein, qu'on retrouve là. Mais oui, ce qu'on disait juste avant l'extrait, et que l'extrait montre bien, est mobilisé en 14. Lupin est nationalisé au moment des grandes crises, Agadir, 1911, et puis il est mobilisé en 14-18. Il va pas faire la guerre, comme d'ailleurs Maurice Leblanc ne fera pas la guerre. Il est trop vieux. Leblanc est né en 64, donc il a 50 ans en 14.
De justesse.
Ouais, de justesse. Mais effectivement, c'est autrement que Lupin est au service de la France dans tous les romans de guerre qui expriment ce ton qui nous paraît aujourd'hui outrancier, excessif, très ultra-cocardier, aux limites aussi du bourrage de crâne qu'on voyait dans les journaux de l'époque. Le discours anti-allemand est caricatural, mais c'était le ton de l'époque. Ça se calme dans les romans d'après-guerre.
L'ambiance générale est très différente.
Voilà, c'est très différent.
Il y a eu la douleur extrême de la barbarie de la guerre.
Ouais,
il a fait un livre qui s'appelle L'éclat d'obus.
L'éclat d'obus, alors ça, c'est un très beau roman, qui est un roman de guerre, là encore. Un roman que j'aime beaucoup, et c'est amusant, ça va faire écho à ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il n'y a pas Lupin, initialement, dans L'éclat d'obus. Il y a un super-héros, comme Maurice Leblanc sait les faire. Sauf que le public a réagi, il n'a pas été content, il a demandé « mais où est Lupin ?» Ce qui fait que la deuxième version fait que le héros devient Lupin, on le découvre in extremis à la fin du roman. Mais il a écrit comme ça plusieurs textes sans Lupin, mais où Lupin transpire presque à chaque page. Il y a un très beau roman, complètement oublié, je ne sais même pas s'il est réédité, qui s'appelle « Le prince de Jéricho », dans lequel on a une espèce d'avatar d'Arsène Lupin, un roman des années 20, fin 20, et le très beau, celui-là a été réédité, Dorothée, danseuse de cordes, qui nous offre la version féminine d'Arsène Lupin. Dorothée, c'est une jeune femme qui est intelligente, maligne, sportive, débrouillarde et qui va mettre tout l'esprit d'Arsène Lupin dans la résolution d'énigmes un peu du même type. Ça doit être un roman de 23 ou 24. C'est assez beau, ça, c'est pas mal du tout.
Cet aspect international est intéressant puisqu'au fond, il échoue à obtenir avant la guerre le retour de l'Alsace-Lorraine. Il est sur le point de l'obtenir en faisant chanter le Kaiser, mais il obtient quand même le Maroc. Il devient au fond une sorte de cambrioleur des frontières.
Absolument. Il est au service de l'histoire de France. Il va apporter au pays un immense empire qui va effectivement de l'Atlantique aux limites au Niger et qu'il va donner à la France. Il y a cette dimension effectivement de l'histoire de France. Lupin est celui effectivement. Je crois que c'est Francis Lacassin qui avait eu cette très belle formule de l'art de cambrioler l'histoire de France.
Pas seulement les frontières, l'histoire en général.
Oui, parce que les énigmes sont très souvent, dans la plupart des textes, il y a bien sûr la guerre, mais ce sont des énigmes qui viennent effectivement, qu'on pourrait appeler d'une certaine manière historico-policières et qui viennent toujours effectivement nous montrer un cryptogramme oublié, une légende qui permet effectivement de retrouver la trace de quelque chose qu'on va restituer à la France. Et bien sûr, le cœur de ça, c'est le trésor des rois de France.
Et c'est là que l'aiguille creuse s'est
approprié et qu'il a absolument.
C'est là que l'aiguille creuse prend une importance essentiel puisqu'il y a le trésor des
rois de France. Dans l'aiguille que l'on visite aujourd'hui, Lupin avait installé ce trésor des rois de France qu'il va finalement redonner in fine au patrimoine national.
Et c'était vrai qu'il était là ?
Bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que tous les lupinologues qu'on évoquait tout à l'heure Leblanc a passé une partie de sa vie dans une villa qu'il avait à Étretat, d'ailleurs qu'il a intitulé à la fin le Clos Lupin.
On peut encore la visiter,
absolument,
semble-t-il.
C'est absolument.
On peut le signaler à nos auditeurs.
Et c'est là que, traditionnellement...
Nous dit-on, une banderole où on voit un extrait d'un sonnet de Heredia, et dans son potager foisonne le lupin.
Voilà, absolument. C'est vrai, j'ai visité cette plusieurs fois parce que les lupinologues que vous parliez tout à l'heure, je n'y vais plus, mais se sont longtemps réunis au tout début de l'été à Étretat pour des congrès extrêmement, extrêmement sérieux. La Normandie, on n'a rien dit sur la Normandie, je pense que c'est important. Parce que Étretat, c'est la pointe. Il y a une grande partie de l'imaginaire Arsène Lupin et qui se déroule dans le triangle cauchois, si vous voulez, Rouen, Dieppe, Le Havre, il y a l'abbaye de Jumièges, Saint-Vendry, il y a toutes les hobereaux normands, il y a toute une dimension très, très provinciale. Il y a dans les textes cette figure de la petite noblesse provinciale qui possède le château en Normandie et qui sont détenteurs de tout un savoir et de toute une culture française qui est très importante dans l'œuvre. Alors, Leblanc, Lupin, c'est Paris. C'est l'international, mais c'est aussi la Normandie. Et je crois que dans cet assemblage gigogne de la petite patrie, de la grande patrie et du monde qu'on évoquait, il y a toute la conception nationale de la Troisième République.
Je voudrais que nous terminions, Dominique Khalifa, cette conversation en direct du Salon du Livre. Un certain brouhaha alentour en témoigne, je crois, suffisamment, que nous terminions en évoquant précisément la postérité de Lupin dans bien des directions. Les pastiches, les imitations, jusqu'à l'étranger. Vous m'avez apporté un petit ouvrage...
Japonais,
qui était patent, avec une image de Lupin assez différente de celle de Léo Fontane, qui avait été si importante pour fixer le personnage. Écoutez donc, j'évoquais François-Georges, écoutez ce propos de lui, et ensuite vous pourrez me dire ce qu'il y a de vrai ou de fantasmagorique, parce que Lupin continue à nous séduire par ses tromperies même, dans les propos de François-Georges. C'est une interview de Gilles Lapouge à propos de l'influence de Lupin dans l'émission Agora, qui avait été diffusée sur France Culture le 15 février 1979.
Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été honteusement pillé. Et c'est un peu contre quoi je m'insurge, car en fait, quand on lit de près les œuvres contemporaines les plus célèbres, je ne citerai pas de nom, on s'aperçoit qu'en
fait... C'est dommage.
Si vous voulez, Lévi-Strauss, Lacan, Derrida, Foucault, tout cela, ce sont un petit peu, il faut bien le dire, des pillards. Et si vous prenez l'aiguille creuse, par exemple, vous avez l'essentiel de la philosophie de Derrida, qui tourne autour du vol et du vol de la trace. Et bien, vous avez cela.
Peut-être, au fond, simplement, Arsène Lupin était là dans Derrida, enfin, et a formé Derrida, mais sans que Derrida lui-même le sache.
Peut-être, mais alors, écoutez, reconnaissez que s'il n'y a pas malhonnêteté, il y a incompétence.
Bien sûr.
Mais j'en reviens à votre question. Alors oui, il y a donc cette hypothèse historique de Sartre qui, lui, a su faire sa place au personnage. Une place quelque peu réductrice. De toute façon, j'en ai parlé avec lui.
Avec Lupin ?
Avec Sartre.
Avec Sartre.
Mais enfin, Lupin n'était pas loin. Et j'étais sous son contrôle. Sartre a convenu, peut-être justement parce qu'il redoutait cette présence de Lupin dans son dos, que les mots, c'est le cas de le dire, parce qu'il parle ça dans les mots, avaient dépassé sa pensée quand il disait que Arsène Lupin était la pure et simple conséquence de notre défaite, notre déculottée, il dit même, de 1870.
Cet absolu farfelu, Dominique Aleffa, est aussi et peut-être le plus bel hommage qu'on puisse rendre à Arsène Lupin et à sa trace jusqu'aujourd'hui.
Vous savez, François-Georges a écrit un livre que je trouve merveilleux, peut-être un des livres les plus subtils sur Arsène Lupin, qui s'appelle « La loi et le phénomène ».
Qui a été réédité d'ailleurs assez récemment.
Les amateurs d'Arsène Lupin et de Maurice Leblanc doivent se précipiter, c'est un livre très drôle.
Avec naturellement un pseudonyme pour Mougarlone, pour François-Georges, il n'est pas question de se montrer tout nu.
Et là, je crois que l'extrait qu'on a entendu nous montre avec beaucoup d'humour et d'érudition ce qu'est la pataphysique, hein, l'art de parler sérieusement des choses qui ne le sont pas, et tout en ouvrant effectivement des clés d'interprétation extrêmement, extrêmement subtiles et extrêmement intelligentes.
On peut dire que c'est une forme d'hommage rétrospectif qu'un grand nombre de talents se sont mêlés de pasticher Leblanc, bien après sa mort un peu chagrine en 41. Il meurt dans la tristesse, mais il rebondit dans l'allégresse par tous ses auteurs. Je pense à Boileau-Narcejac, par exemple.
La Poudrière,
c'est Michel Zingue, le grand historien du Moyen-Âge, désormais de l'Académie française, qui a publié également un pastiche, Arsène Lupin et le mystère d'Arsonval, où il dit qu'il séduit, je parle d'Arsène Lupin, parce qu'il est moderne et que sa modernité est en même temps désuète.
Oui, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est la formule est très juste. Hein. C'est-à-dire à la fois tout ce qui peut conquérir effectivement à nous le rendre très présent et à inscrire ses aventures dans une espèce de chevalerie et d'épopée immémoriale. Il y a Adrien Goetz aussi, dernier en date.
La nouvelle vie d'Arsène Lupin, voilà, 2015.
Hein, Arsène Lupin et Facebook. Je ne l'ai pas lu.
C'est un historien d'art.
Oui. Ça prouve quand même que, vous voyez, quand un personnage non seulement survit à la mort de son auteur, mais ensuite peut être récupéré, rechargé en quelque sorte par des écritures nouvelles, sans perdre pour autant les caractères propres de son identité, c'est bien qu'il nous parle encore et qu'il est encore vivant et qu'il est encore parmi nous. Autrement, ça ne marcherait pas. Aucun auteur, aucun éditeur, aucun lecteur ne serait au rendez-vous. Or, ils le sont.
Et le public continue de suivre dans la diversité de ce public.
Je pense que le bouquin de Goethe a eu du succès. Hein. Et puis, alors, peut-être, à mon avis, on a parlé du film de Becker et de Robert Lamoureux, peut-être que le cinéma n'a pas été complètement encore au rendez-vous de Lupin. Je pense que le dernier film avec Romain Duris, c'était pas mal. C'était je suis de ceux qui pensent qu'on n'a pas encore eu sur les écrans le grand, le vrai, le beau Arsène Lupin que nous méritons.
Il y a pourtant une profusion d'interprétations. Dès l'époque du cinéma muet, on trouvera dans un joli numéro de la revue Europe, qui est ancien, septembre 79, une filmographie impressionnante de tous ceux qui se sont inspirés du personnage. C'est encore une preuve de la prodigieuse diffusion de cette figure.
Mon préféré, c'est Jules Berry dans les années, milieu des années 30. Il est assez, enfin, la posture et la stature de Jules Berry correspond assez bien.
On a un écrit de Leblanc à ce propos, approuvant à peu près. Il n'aimait pas tellement les films qui étaient tirés de Leblanc. Peut-être trouvait-il qu'il était trop simplifié, trop figé. Mais il trouve que Berry n'est pas finalement une mauvaise incarnation.
Mais je pense qu'aujourd'hui, on mériterait un nouvel Arsène Lupin capable effectivement de faire ce pont entre le caractère belle époque du personnage et son intemporalité, donc sa contemporanéité que nous évoquons. Le film avec Duris, c'était sur la voie, mais moi, je n'ai pas été complètement séduit, quoi.
Eh bien, nous allons malheureusement nous en tenir là, en attendant que Arsène Lupin ressurgisse quelque part dans ce salon du livre qui nous entoure, à chacun de l'y débusquer. Nous allons terminer en saluant plusieurs de vos écrits, Dominique Khalifa, La véritable histoire de la belle époque. Nous en avions parlé, je me le rappelle, dans une émission antérieure, publication chez Fayard. Malheureusement, Fayard n'est pas présent. Je n'ai pas de stand de Fayard. Il achète sur le salon du livre. Alors, vous êtes très chagrin parce que votre narcissisme est blessé. Vous ne pouvez pas aller vérifier que vos livres sont bien en place. C'est également chez Fayard, erreur visiblement, que vous avez publié L'encre et le sang, récit de crime et société à la belle époque. 1995, ouais. Cela vous a préparé.
Ça ne me rajeunit pas.
Ça vous a préparé tout droit. Et on peut faire des rapprochements du coup avec les autres figures emblématiques. Fantomas, vous êtes très cher.
Oui, j'ai écrit aussi un livre sur un essai sur Fantomas l'an dernier.
Il est toujours vivant,
Il est toujours vivant, il continue à aller. Les mythes se portent bien.
Et vous en avez d'autres de vos personnages même type, dans cette ambiance spécifique, cette relation avec le crime de votre belle époque.
J'aime bien Rouletabille aussi, l'enquêteur, le reporter enquêteur. Il est quand même magnifique. Hein.
Et lui aussi est international.
Lui aussi est international. Il va chez le tsar, il va dans les Balkans, il participe à la guerre des Balkans. Non, c'est un très beau personnage. Mais lui est à la poursuite. Hein, il réduit les transgressions que Leblanc ou Soubestre et Alain se font un plaisir de susciter.
Parmi les biographies de Leblanc, il faut citer le livre de Jacques Deroire, Maurice Leblanc, Arsène Lupin, malgré lui.
C'est la somme. Deroire est un auteur normand qui a pu vraiment, à partir de son inscription dans le Pays de Caux, faire surgir toute la richesse de l'itinéraire et de la figure de Leblanc.
Est-ce que vous trouvez que c'est un livre de 1989, il a interrogé un certain nombre de contemporains, et notamment le fils et la petite fille de Leblanc, qui s'efforce vaillamment de continuer à
Il y a peu de temps, en 2012, oui. elle a sorti des cartons du Clos Lupin, un manuscrit qui n'avait pas été publié, Le dernier amour d'Arsène Lupin.
Est-ce que vous considérez que la Normandie lui rend assez hommage?
Oh oui.
Très bien, mais nous transmettrons à cette précieuse région française cette approbation. Je vous remercie d'avoir, Dominique Khalifa, permis de démontrer, je crois que ça a été efficace, l'admirable présence contemporaine d'Arsène Lupin et finalement par lui de Maurice Leblanc. C'est une façon rétrospectivement de consoler post-mortem Leblanc de son chagrin. De son chagrin d'avoir été dévoré par son personnage. Samedi prochain, nous parlerons de l'europhobie. L'europhobie, c'est une longue passion, c'est assez actuel. Bernard Brunteau vient de publier un ouvrage consacré à ce sujet. Je me réjouis de l'accueillir. Je signale aussi que notre confrère, Emmanuel Laurentin, confrère en amour de l'histoire sur cette chaîne, consacrera la prochaine semaine de ses émissions à l'histoire des frontières dans la fabrique de l'histoire. Ces frontières qu'Arsène Lupin, Dominique Khalifa, aimait tant franchir, bousculer, dont il aimait tant triompher. C'était Concordance des temps. Ah, les applaudissements, ils viennent d'à côté. Ils viennent de France Inter, mais je les prends pour moi. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée... Ah bah oui. Sinon, il y aurait eu de la jalousie. Merci, cher public. Une émission préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Anne Kobilac, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan et Élise Le, avec la prise de son aussi Tanguy Le Corneau, ils étaient trois parce que nous sommes en public, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain et avec Sandra Escamez pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et dans un instant, mais cette fois sur place, je vais avoir le plaisir de laisser cette table d'enregistrement à Christine Ockrent qui arrive pour son émission Affaires étrangères. Merci au public de son amitié et de son soutien.